Alors, vous n'êtes pas sans savoir, donc en ce 11 février, nous célébrons une mémoire toute spéciale, une mémoire en l'honneur de Notre-Dame de Lourdes, un des trois grands sanctuaires à travers le monde dédiés à la Vierge, parmi les plus populaires. On peut penser aussi au sanctuaire Notre-Dame de Fatima au Portugal ou même Notre-Dame de Guadalupe au Mexique. Mais Notre-Dame de Lourdes occupe une place toute spéciale, évidemment, d'autant plus que c'est un sanctuaire en langue française. Les circonstances de cette dévotion à Notre-Dame-de-Lourdes remontent à la deuxième moitié du 19e siècle, alors qu'une toute jeune fille analphabète reçoit l'apparition d'une belle dame dont elle ne connaît pas le nom, mais à qui elle demande de s'identifier. Et cette dame répond « Je suis l'Immaculée Conception ». Alors, Bernadette se rend à son curé, à qui elle avait parlé de cette apparition, et son curé, un peu perplexe, lui demande, voudrait bien savoir de qui il s'agit. Et lorsque Bernadette revient en courant, elle qui est analphabète et qui récrie à Monsieur le curé, « Je suis l'Immaculée Conception », le pauvre Monsieur le curé est tombé dans sa chaise, puisque le dogme de l'Immaculée Conception avait été déclaré à Rome quelques années plus tôt. C'était impossible pour cette petite fille analphabète d'avoir été mise au courant de cela. Et alors, à partir de ce moment-là, les pèlerins se sont rendus en grand nombre à la grotte de Massabielle. Et je crois que les textes de ce jour nous offrent deux perspectives par rapport à la signification de cette mémoire pour chacun et chacune d'entre nous. La première, c'est une réflexion par rapport à la dévotion envers la Vierge Marie. Et la deuxième est par rapport à une parole de consolation qui est offerte par l'entremise de Notre-Dame de Lourdes. La dévotion à la Vierge, oui, elle nous est offerte en particulier, présentée dans le texte de l'Évangile, la lecture évangélique que nous venons d'entendre, tirée de l'Évangile selon saint Jean, un texte que nous avons entendu un dimanche ici, il y a seulement quelques jours de cela, quelques semaines. Et c'est donc à l'intérieur d'un mariage que Jésus accomplit un miracle. Et ce miracle prend une signification toute spéciale. Et il y a des allusions dans ce passage à d'autres textes des Saintes Écritures. Nous, aujourd'hui, la Bible, on y est plus ou moins familier. En tout cas, il y en a qui en sont plus que d'autres, mais à l'époque où Jean a écrit son Évangile, connaître les Saintes Écritures, ça courait à travers les veines. C'était quelque chose de naturel pour les croyants de connaître les grands textes des Saintes Écritures. Et il y a ici probablement deux allusions principales à d'autres passages de l'Ancien Testament. En particulier le fait que on sait que lors d'un mariage, celui qui, à l'époque de Jésus, pouvait être celui qui était en contrôle de la situation ou de la fête, c'était l'époux. C'est lui qui avait probablement les moyens financiers pour faire en sorte que le mariage soit un succès. Donc, c'est probablement lui qui s'assurait qu'il y ait suffisamment de vin en particulier. Or, notez comment dans la deuxième moitié du récit, lorsque le maître du repas se présente à l'époux, il lui dit « Écoute, habituellement, dans un mariage, on apporte d'abord le bon vin, puis quand tout le monde a bien bu, on apporte le moins bon vin, parce que les gens s'en rendront moins compte, ils ont déjà bu beaucoup. Mais là, il dit, toi, tu as apporté le bon vin d'abord. » Et là, mystérieusement, on peut penser que cette parole, c'est à Jésus qu'elle s'adresse. C'est comme si saint Jean est en train de montrer dans ce récit que le véritable époux, ce n'est pas l'époux du mariage, c'est Jésus lui-même. Jésus est l'époux. L'époux qui est sur le point d'accomplir l'alliance. L'alliance dans son sang. D'ailleurs, la Vierge Marie en devient l'instrument parce qu'on la retrouve au pied de la croix. Et comme on l'a déjà dit, la chronologie de la mort de Jésus dans l'Évangile selon saint Jean se produit à l'intérieur du repas pascal. Ainsi donc, Jésus accomplit le premier signe qui est déjà le signe qu'une nouvelle alliance est sur le point de s'accomplir dans son sang, un sang abondant, aussi abondant que cette multiplication du vin qui est faite lors de ce premier signe. Et on pense que ce texte pourrait être aussi une autre allusion à un texte fondateur de la foi juive. C'est le livre de l'Exode, chapitre 19, verset 11. En fait, on ne peut pas le savoir ce matin en fonction du texte que nous avons entendu, parce que le premier verset a été modifié. Mais si vous allez dans la Bible à la maison et que vous allez voir les versets, « En ce temps-là » sera remplacé par « le troisième jour ». Et on peut penser que cette expression-là n'est pas anodine, elle n'est pas par hasard. Le troisième jour, si vous allez voir dans votre Bible, livre de l'Exode, chapitre 19, verset 11, le troisième jour, c'est le moment où Moïse est sur le point de recevoir les tables de la loi, les 10 commandements, le décalogue. L'alliance est sur le point d'être accomplie. Et donc, voyez, il y a l'ancienne alliance, la nouvelle alliance, et Marie est désignée comme étant l'arche d'alliance, la nouvelle arche d'alliance, parce que les tables de la loi avaient été placées à l'intérieur de l'arche d'alliance. Maintenant, la Vierge Marie, elle, va porter en son sein le Fils de Dieu, Jésus, le Messie, celui qui vient nous donner la nouvelle alliance par son sang. Donc, on voit le lien qui unit la mère et le fils et qui permet de voir à quel point les deux sont unis pour nous aussi dans notre dévotion envers elle. Je disais aussi qu'il y avait le message de la consolation, et ce message-là, il paraît clairement dans le texte de la première lecture. Il y a un jeu de mots qu'on fait en italien, on vous l'a probablement dit parce qu'il y a plusieurs personnes qui parlent l'italien parmi les membres du clergé de la région. Deux mots en italien, traduttore, traditore. Alors, c'est deux mots qu'on traduit en français par traducteur et traître. Les deux mots se ressemblent en italien, mais pas en français. Et c'est pour dire que parfois, les traducteurs, ils sont des traîtres. Parce que lorsqu'ils traduisent, ils ne respectent pas ce qui est écrit. Et ça apparaît très clairement aussi dans le texte de la première lecture, puisque si vous allez voir dans votre Bible, en particulier la nouvelle traduction de la Bible liturgique, on offre en bas de page une traduction littérale de ce texte. Alors, ce que nous avons entendu, c'est ceci: vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations, alors vous goûterez avec délice à l'abondance de sa gloire. Or, textuellement parlant, le texte devrait être ceci: alors vous serez nourris de son lait, rassasiés de ses consolations, alors vous sucerez avec délice à la mamelle de sa gloire. Ça veut dire tout autre chose. Vous allez dire, pourquoi a-t-on modifié le texte? C'est que juste à l'entendre, peut-être qu'on se dit, qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour nous aujourd'hui? Toute l'idée qui est présentée ici, c'est celle de la consolation. Y a-t-il une image plus consolante que la mère, que l'image d'une mère qui nourrit son enfant? Et le mot « consolation » revient 4 fois dans le texte ici. Consoler, consoler, il vient vous consoler, et une mère ne fait que ça, consoler. Et elle le fait dans le temps. Elle le fait pas seulement au moment de l'allaitement, mais aussi dans le temps. Regardez ce qu'on dit un petit peu plus loin. « Vous serez nourris, portés sur la hanche. Vous serez choyés sur ses genoux. » Là, ce qu'on voit ici, c'est un enfant qui est en train de prendre du mieux. C'est un enfant qui est bien nourri. Alors, un bébé nourrisson qui est nourri, on le porte pas sur la hanche. Okay, le bébé nourrisson, il faut le porter dans les bras proches du sein. Mais il arrive un moment où quand le bébé commence à grandir, là, aïe aïe, commence à être plus lourd, puis là, on cherche de l'appui. Vous avez vu ça, les mamans, là? Puis là, je sais pas comment ils font, là, ils se mettent plus sur une jambe que l'autre, puis là, ils vont mettre le bébé, là. Ils vont sortir un petit peu comme ça, là. Vous avez vu ça? Puis là, ils vont le tenir les deux jambes chaque côté. Puis quand à un moment donné, là, ça devient vraiment trop lourd, ben là, ça va sur les genoux. Hein? Là, désolé, le bébé, il a pris du mieux, il est de plus en plus fort, donc maintenant, il faut l'asseoir sur les genoux. Frères et sœurs, regardez donc cette image. Ce n'est pas à des bébés nourrissons qu'elle s'applique, c'est à vous et moi. Nous aussi, dans le cœur, nous ne sommes que des pauvres petits-enfants qui avons besoin d'être consolés. Et cette consolation passe par l'entremise de la mère du Fils, la mère de Jésus, qui est notre mère à nous aussi. Et le lien qu'on peut faire avec la célébration de Notre-Dame de Lourdes, c'est ce qui est mentionné dans le texte quand le Seigneur promet lui-même qu'il va diriger vers elle, donc c'est la Jérusalem nouvelle, c'est Marie, la paix comme un fleuve et comme un torrent qui déborde la gloire des nations. Or, si vous allez à Lourdes, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, il y a la possibilité de se baigner dans une piscine à la grotte, sur un lieu où la Vierge Marie avait demandé à Bernadette de gratter. Et là, il y a une source qui est sortie, et maintenant, cette source, l'eau est conservée, et les gens qui y vont le font pour être lavés de leurs fautes, de leurs péchés, de leurs malheurs, de leurs tristesses, de leurs ennuis. Frères et sœurs, la Vierge Marie est pour nous comme une mère qui nous console, et si alors nous avons besoin de consolation, allons vers elle. Pour qu'ensuite nous pouvions nous aussi aller consoler tous nos frères et sœurs qui n'en peuvent plus. Amen.